E-Radio, l'invité de la rédaction.
À un peu plus de 3 mois des élections européennes, plus de 3500 dirigeants locaux et régionaux venus de toute l'Europe se sont réunis à Mons, en Belgique, à l'occasion du 10e sommet européen des villes et des régions. Ce sommet était l'occasion d'évaluer les avancées engrangées par le Pacte vert européen et d'aborder les enjeux qui se jouent à l'échelle locale pour accélérer la transition écologique. Pour en parler aujourd'hui, Euradio reçoit Philippe Henry. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes vice-président de la région Wallonne, ministre du Climat, de l'Énergie, de la Mobilité et des Infrastructures. Pour commencer, en tant que ministre, est-ce que vous diriez que le cadre européen, ce Green Deal, est contraignant pour les villes et les régions ou est-ce qu'il permet au contraire de mettre en place de réelles solutions à l'échelle locale ?
Alors c'est à la fois un cadre contraignant pour les États qui le traduisent évidemment, notamment avec les villes et les régions, en matière de politique climatique et de transition énergétique, mais c'est aussi un formidable boost parce qu'évidemment on se voit avancer dans tous les pays en même temps à l'échelle européenne, donc on a vraiment un effet de taille et on a aussi des disponibilités budgétaires importantes. Des soutiens via le plan de transition juste, via le fonds de transition juste, via le plan de relance et de résilience. Il y a plusieurs mécanismes qui font qu'on a des moyens budgétaires pour soutenir les politiques locales, notamment dans les villes et communes.
Vous, ici en Wallonie, est-ce qu'il y a des difficultés particulières auxquelles vous êtes confrontés dans la mise en place de ce pacte vert ? Quels sont les freins ?
Alors, d'une manière générale, le changement peut faire peur à tout le monde, aux citoyens, aux entreprises, aux collectivités. Et donc, il faut vraiment qu'on mette en place des mécanismes d'accompagnement. On doit évidemment forcément avoir une trajectoire d'évolution, on doit changer notre mobilité, notre manière d'habiter, avoir des bâtiments plus isolés, rendre l'économie circulaire, transformer l'agriculture. Tout ça se fait progressivement, c'est nécessaire, mais ça doit être fortement accompagné, notamment par des soutiens financiers. Par exemple, pour les bâtiments, nous avons, au niveau de la Wallonie, augmenté très fortement les primes et les prêts sans intérêt pour les particuliers, mais aussi les mécanismes d'accompagnement des ménages, parce que ça ne suffit pas d'avoir une aide financière, il faut aussi savoir que faire, comment mener son projet de rénovation. Je pourrais peut-être évoquer la déclaration de Liège, puisqu'on a eu justement il y a quelques semaines le sommet non étatique, le premier sommet européen sur l'adaptation climatique que nous avons organisé la Wallonie dans le cadre de la présidence belge. Et donc ça aboutit à une déclaration qui va justement faire des recommandations pour la prochaine Commission européenne, pour la prochaine période européenne, la prochaine législature. Et déjà ici, avant la fin de celle-ci, cela reviendra en discussion dans le Conseil européen. Donc c'est vraiment important qu'on ait à la fois cette préoccupation de l'adaptation climatique, de l'adaptation de nos territoires, pas seulement, parce qu'il faut faire les deux évidemment, de la limitation des émissions, et de le faire avec les villes et régions, et pas uniquement top-down à l'échelle européenne.
Et aujourd'hui, à quelques mois, quelques semaines des élections européennes, est-ce que vous estimez que le pacte vert peut être la clé pour encourager les citoyens européens à se rendre aux urnes en leur montrant que l'Europe peut avoir un impact direct sur leur quotidien, même s'ils ne s'en rendent pas forcément compte et n'en ont pas nécessairement conscience.
Alors oui, en fait, on retient un peu son souffle. Il faut expliquer ce que c'est le projet européen, ce que c'est que la transition positive pour l'avenir de l'Europe, parce qu'effectivement, ce qui va résulter des élections européennes dans quelques semaines va être déterminant pour les prochaines années. Nous avons besoin de poursuivre, d'amplifier cette transformation de la société, mais en l'accompagnant, pour que personne ne soit laissé au bord du chemin, pour qu'il n'y ait pas de population précarisée en difficulté. On a besoin de budget européen, de soutien, aussi de capacité d'investissement dans les États. Donc toutes ces décisions-là, elles vont dépendre évidemment des élections européennes et de la manière dont sera représentée la population au Parlement européen notamment.
D'après vous, sur ce pacte vert, quelle est l'urgence ? Quel est le principal dossier sur lequel il faut travailler en 2024, toujours dans un contexte électoral ?
Je pense que la question la plus sensible, c'est celle à la fois du budget européen et des investissements. Il est très important que l'Europe continue d'injecter des masses budgétaires très importantes pour soutenir la transition et aussi qu'elle permette aux États d'investir. Or, pour le moment, on a des craintes par rapport au cadre européen d'investissement tel qu'il est en train de se durcir. Et ça, c'est un vrai problème, parce que moi, je suis convaincu qu'on ne peut réussir la transition qu'en investissant. Et de toute manière, le changement, l'investissement est beaucoup moins cher que l'inaction. Les catastrophes climatiques, les impacts d'un changement non maîtrisé sont bien pires en termes d'impact pour les finances publiques et de gravité aussi pour la population.
Nous sommes donc ici au sommet européen des régions et des villes. Quelle est la place, justement, de cet échelon local dans le pacte vert européen, dans les décisions qui peuvent être prises pour l'environnement à l'échelle européenne?
Alors, elle est tout à fait centrale. On a besoin d'inclusivité à la fois des populations, des entreprises, des ONG, mais aussi du niveau local, de la commune, de la ville. Et ça, évidemment, c'est la responsabilité de chaque État, mais aussi de l'encadrement européen. Et je pense que la demande est présente aussi. Je constate que ces dernières années, il y a une demande beaucoup plus forte aussi parce qu'elle vient des citoyens eux-mêmes, de politiques locales en matière de changement climatique, d'isolation des bâtiments, de mobilité, mais aussi d'adaptation climatique, par exemple de végétalisation des centres-villes, d'isolation des bâtiments, etc., de production d'énergie renouvelable. Donc on doit vraiment allier le cadre général et le financement et les actions très locales, très inclusives avec la population.
Est-ce que vous, ici, en Wallonie, vous échangez avec d'autres pays, d'autres villes en Europe pour avoir justement un cadre commun, des initiatives communes qui peuvent peut-être avoir plus de poids que si ces décisions étaient prises unilatéralement?
Oui, alors il y a plusieurs niveaux d'échange. Donc effectivement, les choses se passent à l'intérieur de chaque pays déjà, mais aussi en discussion au niveau européen. Nous avons par exemple, lorsqu'il y a les sommets, les conférences climatiques chaque année, nous participons à des réunions des villes et régions, de la francophonie par exemple, ou des bilatérales. Donc c'est une dynamique où les échanges doivent se faire vraiment à la fois en bilatéral et en multilatéral pour échanger les bonnes pratiques, parce que bien sûr chacun a des situations particulières. Par exemple, le dérèglement climatique ne va pas produire les mêmes effets concrètement de catastrophes, de changements de la biodiversité, etc., ou de l'agriculture dans chaque pays, dans chaque région. Donc c'est spécifique, mais en même temps, beaucoup de solutions sont aussi les mêmes ou peuvent être en tout cas adaptées d'un pays vers un autre. Et donc on n'a pas besoin de tous réinventer l'eau chaude, on peut au contraire se renforcer et s'allier.
Merci Philippe Henry, vous êtes, je le rappelle, vice-président de la région Wallonne, ministre du Climat, de l'Énergie, de la Mobilité et des Infrastructures. Merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions d'Euradio.
Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.